Porte métaphysique par la Pèmerie Dominique Philippe, le 24 janvier 2002 à Saint-Gédard.
D'être unis au Saint-Père, c'est de continuer de chercher la vérité. Mais que de cœur et d'intelligence, nous soyons unis avec lui. Parce que c'est vraiment une journée qui doit être sainte. Elle est mondiale et elle est chrétienne. C'est le peuple qui appelle tous les chrétiens d'être unis à sa prière. Alors, en faisant de la métaphysique et de la prudence, puisque nous cherchons à savoir ce qu'est la prudence, notre prudence chrétienne consiste justement à être très unis dans un geste qui a une valeur catholique, universelle. On pense à la multiplication des pains par rapport à la vie du Christ. Et c'est vrai, c'est une manifestation. Il y a les intentions du cœur que nous avons tous au plus intime de nous-mêmes et que nous devons avoir. Et puis il y a cette manifestation qui, au fond, est très belle et très grande. Nous étions donc à rechercher la prudence. N'oublions pas qu'il y a deux regards sur la prudence. Il y a un regard éthique et moral, de philosophie morale. Je découvre la prudence quand j'étudie ce qu'est mon activité morale et vertueuse. Et je vois que la prudence joue un rôle extrêmement important. Elle organise ma vie. Elle est sagesse pratique. Elle est ce qui donne à la vie morale un panache. La vie morale peut être une vie extrêmement banale. Le train-train de tout le monde. Regardez les vues morales au marché. Très significatif. On achète des choux. C'est vrai. Et on choisit les carottes et les choux et les pommes de terre. Et que pour la plupart des gens, la vue morale consiste à avoir de bons repas, d'avoir des grandes vacances au soleil. Et tout est ordonné à ça. L'argent domine sur l'organisation. La bourse, c'est capital. Et ceux qui sont au sommet, c'est effrayant ce qui se passe. Vous voyez, la prudence est réduite à un art, aujourd'hui. Pour la plupart des gens, c'est réduit à un art. L'art de se conduire. Or, la prudence n'est pas ça du tout. Elle doit être, on la voit au point de vue moral, elle organise ma vie morale. Elle organise ma vie morale. C'est la prudence qui me fait voir ce que je dois prendre comme travail, comme repos dans mon travail, ce qui doit être un travail en vue de la recherche de la vérité et ce qui peut être le travail pour gagner sa vie. même en tant que religieux, il faut faire vivre la boutique. Et on doit penser qu'il y a toujours des petits-enfants auxquels on doit avancer l'argent pour qu'ils puissent vivre. C'est vrai, on fait un corps. Et tous les couvents aident à pouvoir vivre sa vie, à pouvoir élever les petits poussins au noviciat. Et forcément, la prudence, mais le point de vue argent est tout à fait matériel. C'est la cause matérielle. Et elle est très tenace. C'est évident, quand on n'a pas de sous et qu'il fait froid, ben, c'est pas drôle. On doit tenir compte de cela. Mais c'est matériel. La prudence consiste à faire que notre vie soit toujours montante. Quand on voit que notre vie décline, ah, un coup de barre à droite. Parce que instinctivement, ça décline. Parce que nous sommes fondamentalement paresseux. On a envie de s'arrêter. Le duc in altum, c'est le mot d'ordre du pape. C'est aller où ? Toujours plus loin. Alors, il y a un regard différent de la prudence au point de vue éthique, moral, et au point de vue métaphysique. Nous nous posons le point de vue de la prudence au point de vue métaphysique. Parce qu'elle est un élément de la personne, et c'est justement là le regard métaphysique. C'est qu'elle est un élément de la personne. Je ne peux être une personne humaine que si j'ai ce souci d'organiser ma vie en vue de la recherche de la vérité, de la recherche du bonheur. Le bonheur étant la contemplation et étant l'amitié, les finalités. Au point de vue métaphysique, je vois comment la prudence ramène tout à la finalité. Et ta finalité joue un rôle primordial dans l'organisation de ma vie. Je suis là pour contempler. Je suis là pour rechercher la vérité. Je suis là pour aimer mes frères. Finalité. Qu'est-ce qui finalise ma vie ? Ben, ce qui finalise ma vie, c'est la recherche de la vérité, la contemplation. Qu'est-ce qui finalise ma vie ? L'amour d'amitié. Au point de vue humain et au point de vue surnaturel, encore plus. Mais je ne parle pas du point de vue surnaturel. Hein. Je parle du point de vue humain. Donc, au point de vue philosophique, la prudence va être la clé de voûte entre le point de vue contemplatif et le point de vue pratique. Elle est le sommet du pratique. Elle est dans l'intelligence. La prudence organise mon intelligence au point de vue pratique. Et comme elle est vue d'un point de vue métaphysique, elle est organisée en fonction de la recherche de la vérité et en fonction de l'amitié. Au point de vue prudence, je suis prudent si j'ai le souci à l'égard du temps, l'ordre de mes activités, le temps de mes activités. Je suis responsable de mes activités en face de Dieu. Je suis responsable du temps que je donne à la contemplation. Je suis responsable du temps que je donne à la charité fraternelle. Je suis responsable du temps que je donne à ma santé. Je suis responsable en face de Dieu du temps que je dois donner aux autres. Et au point de vue prudentiel, je dois organiser cela toujours en vue de cette recherche de la vérité et en vue de la charité fraternelle. Et dans la charité fraternelle, je dois organiser mon temps. Je suis responsable. Et je crois que c'est peut-être cela qui est le plus net dans ce regard sur la prudence, au point de vue prudentiel. Je suis responsable en face de Dieu du temps que je donne aux autres, du temps que je donne à ma vie contemplative et du temps que je donne aux autres avec toutes mes diverses responsabilités. Je dois être responsable en face de Dieu de toutes ces responsabilités. Je n'ai pas le droit d'organiser ma vie comme je le veux ou selon mes préférences. Je dois organiser ma vie selon ce que Dieu réclame de moi. La prudence est une petite sagesse pratique. Et donc toutes mes activités, même mon sommeil, est organisé prudentiellement. La nourriture que je prends, ce qui est nécessaire, tout cela est ordonné à cette recherche de la vérité. Tout doit être ordonné. Je n'ai pas le droit de laisser des choses au hasard. Si je laisse au hasard, au fond, nécessairement, ça descend. Alors que tout doit monter et doit aller toujours plus loin. Donc, au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, comme élément de la personne, la prudence fait le lien entre vie contemplative et vie active. Il faut bien le dire, hein, que c'est le gros problème auquel on revient tout le temps. Et ce lien entre la contemplation et la vie active peut varier selon les circonstances, selon l'âge. La prudence est attentive à nos capacités, notre capacité vitale. La prudence est, je dirais, est très individuelle et très personnelle. Elle fait peut-être le lien entre individu et personne. Parce qu'elle est individuelle, la prudence. Elle tient compte de mon corps. Je ne dois pas faire des choses qui me mettent dans un état où je serai infirme. Parce qu'à ce moment-là, c'est les autres qui emporterait la conséquence. Donc je dois faire attention de ne pas exagérer, de ne pas faire des prouesses de vitesse, parce que c'est dangereux. Et je risque ma vie. Et non seulement je risque ma vie, mais aussi le matériel. On doit tenir compte de ça. Donc, tout le point de vue matériel individuel, vos tempéraments, mais ma force. Je tiens compte de ça. Et surtout, je fais que tout ça doit être personnalisé. Mon corps, quand il n'est qu'individuel, c'est un triste corps. Mon corps, quand il est personnalisé, devient un instrument de bonheur. Au point de vue chrétien, de sainteté. Mon corps doit participer à ma finalité. Et c'est par la prudence que je le domine. Et c'est par la prudence que je le rends personnel. Mon corps demande de devenir personnel. Donc d'être parfaitement éduqué. Et c'est la prudence qui éduque mon corps à faire ce passage. Je sais qu'il est individuel. Je sais qu'il dépend de tout un atavisme. C'est vrai. L'atavisme de mes parents. L'atavisme de mes grands-parents. Il y a tout un atavisme. Ce n'est pas la même chose d'être mexicain que d'être brésilien, que d'être au point de vue français. Vous voyez, il y a un équilibre de sagesse qui fait que la manière de rendre l'individu personnel a une note spéciale. Et c'est une bonne recherche. De jamais vouloir regarder ça, c'est faux. Vous êtes responsable de vous-même et de votre devenir personnel. Et ne dites pas, en vie religieuse, c'est remis aux supérieurs. Pas du tout. Vous coopérez avec les supérieurs. Ce n'est pas une obéissance passive. C'est une obéissance aimante. Or, vous vous éduquez vous-même l'âge de raison par rapport à votre corps. Quand vous étiez tout petit, vous avez subi la manière dont vos parents vous ont élevé. Et vous n'aviez qu'à être bien sage. Mais aujourd'hui, ça ne dure pas très longtemps, ça. Très très vite, notre sagesse, on l'acquiert. Je crois que, vous voyez, ce qui serait très intéressant, c'est ce passage de l'individu à la personne. Je crois que c'est ça qui serait le plus important à découvrir pour comprendre ce qu'est la prudence au niveau métaphysique. Tout doit être personnel. La couleur de mes cheveux, je n'en peux rien. Si je suis chaud, très vite, ou que même à un âge avancé, je ne le suis pas, mais c'est indépendant de moi. C'est sûr. C'est ma nature. Ma nature, c'est quelque chose qui dépend de tout un atavisme. Et c'est évident que la nature humaine n'est pas la même maintenant qu'il y a 100 ans. Elle est un peu plus usée. La nature humaine varie, c'est sûr. Mais je n'en peux rien. Je suis né comme ça. Je suis né avec cet atavisme. Vous voyez ? Et ça joue beaucoup, ça. Ce qui montrerait, vous voyez, je vous dis en passant, que l'âme n'est pas tout de suite, elle n'informe pas tout de suite le corps. Parce que si elle informe tout de suite le corps, l'atavisme disparaît. Alors qu'on sait psychologiquement, maintenant, avec ce qu'on appelle la mémoire du corps, que l'atavisme est très important. Si vous avez eu des grands-pères ou des grands-mères qui ont joué avec leur corps, avec des alliances un peu démoniaques, parce que le démon aime beaucoup de jouer avec le corps, ou dans la jouissance, le corps devient l'instrument de jouissance, uniquement. Et ça, le démon aime ça. Vous voyez, l'individu, qu'est-ce qu'il devient ? Parce que vous n'avez pas eu la prudence, la sagesse de voir ce que vous voulez dire. Mon corps doit être de plus en plus l'instrument de ma personne, la modification de ma personne. Ma personne, elle se donne à travers mon corps. Et je ne peux pas le nier. Chaque fois que je parle, j'utilise mon corps. Et je sais bien que quand il y a des organes qui ne vont plus bien, je ne peux plus parler. Chaque fois que je parle, j'utilise mon corps. Chaque fois que je travaille, j'utilise mon corps. Et mon corps doit se spiritualiser. C'est ma petite maison. Alors, je suis architecte de mon corps, avec beaucoup de limites. L'atavisme joue beaucoup. La matière particulière de mon individu dépend énormément de l'atavisme. Ce qui montre bien qu'il y a toute une période dans la formation de mon corps où l'atavisme joue un rôle extrêmement important. L'individuation. L'individuation joue ce rôle-là tout à fait particulier. Et si je prétends que l'âme est tout de suite forme du corps, alors cet atavisme qu'on constate et qu'on voit aujourd'hui, la mémoire du corps, c'est une réalité, ça. Elle joue beaucoup moins. Alors que tout indique qu'il y a cela. C'est notre individuation. Notre individuation reste quelque chose qui n'est pas ma personne. Par ma prudence, l'individuation devient ma personne. Au fond, c'est je dirais, l'éducation au plan métaphysique. L'éducation au plan métaphysique, c'est la transformation de l'individu qui dépend de tout un atavisme. Ça, c'est sûr. Il y a un atavisme français, il y a un atavisme américain, il y a un atavisme mexicain. On reconnaît ça au bout de la rue, on dit, oh, mexicain, ça, américain, ça, français, européen, oh, Danemark, italien. C'est un phénomène extrêmement important dans ma vie, de connaître mon individuation. Je dois le connaître. Et je dois transformer cette individuation, puisque c'est la matière qui m'est donnée. C'est la matière qui m'est donnée pour devenir, au point de vue chrétien, je dirais, un saint. Au point de vue philosophique, je dirais, devenir personnel. Être une personne. Je suis une personne jusqu'au bout de mes doigts. Et l'atavisme joue. Il y a un petit combat entre l'atavisme et ma personnalité. Ma personnalité, c'est moi. Je ne dépends pas de mes parents pour ma personnalité. C'est de mon âme. C'est le choix de ma vie. C'est cette sagesse que je cherche. Et elle s'incarne jusqu'au bout de mes doigts. Mes mains. Ma figure. C'est extrêmement important, cette espèce. Ce n'est pas une lutte, mais ça se fait comme toujours dans un certain combat. Donc, cette vision de la prudence au point de vue métaphysique, c'est le lieu de la transformation. Ma prudence est consciente de ça. Je suis conscient de mon apport, de l'apport individuel. Je suis conscient que mes grands-parents sont présents en moi, que mes parents sont présents en moi. Je suis conscient de ça. Je suis conscient que j'ai reçu la culture américaine, la culture européenne, la culture du Grand Nord. Il n'y en a pas encore. On a vu ça, un Esquimau. Oui, il y a une personnalité différente. Hein. Un type d'homme particulier. Et c'est très important de connaître son individuation. Il faut la connaître. Et ça, c'est pas du tout au point de vue moral. Au point de vue moral, on regardera tout selon sa valeur morale. Tandis qu'au point de vue métaphysique, on ne regarde pas ça au point de vue. La valeur morale joue, elle est très importante. Mais je vois plus ce combat, ou si vous voulez, cette alchimie, cette transformation de l'individu en personne. C'est très beau, du reste, et c'est très étonnant. L'individu, c'est donc ce qui m'est donné, je n'en peux rien, d'avoir eu un grand-père noceur, je n'en peux rien, d'avoir eu un père alcoolique, je n'en peux rien. Je bénis le Seigneur seulement d'avoir un grand-père qui n'était pas alcoolique. Et s'il l'était, je dis au Seigneur, aidez-moi à transformer cet individu en une personne. Et on doit prendre conscience de ça. Ça fait partie de notre personnalité et de notre prudence. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller voir des spécialistes qui connaissent ça. Chacun d'entre nous, nous sommes notre spécialiste. Et chacun d'entre nous, nous devons être lucides là-dessus. Une lucidité, vous voyez, qui se fait assez rapidement. Je ne veux pas réfléchir. Je connaissais, moi, quand j'avais 15 ans, un garçon qui passait tous les jours une heure en face de la glace faisant des grimaces. Au fond, il étudiait l'individu. Et il avait les portraits de son grand-père, de sa grand-mère, et cherchait à retrouver ses traits en nous. Bon, ça, c'est exagéré, hein. C'est évident, c'est exagéré. Mais il y a une connaissance de l'individu. C'est un donné. Et c'est un donné important. Ce donné devient très important lorsqu'il devient un obstacle. Vous voyez ? C'est là où le psychologue s'enrichit. Plus il y a d'obstacles de l'individu à l'égard de la personne, plus le psychologue a son mot à dire. Si on n'est pas philosophe, or, comme très peu de gens sont philosophes pour réfléchir sur l'individu et la personne, alors ils vont trouver leur psychologue dès qu'il y a un obstacle. Quand l'individu devient petite tête. Parce que c'est toujours petite tête, l'individu, comparativement à la personne. Parce que la personne a une finalité qui dépasse. Tandis que l'individu a ses résistances. Je suis petit-fils d'un tel. Eh bien, ça se revoit, ça. Et ça se revoit surtout quand l'éducation première a été ratée. Et on n'en peut rien que la première éducation a été ratée. Et quand la première éducation a été ratée, l'individu domine la recherche de la personne. Il faudrait reprendre tout le point de vue de l'éducation avec les deux. Ça nous aiderait beaucoup à regarder la place de la psychologie. Parce que la psychologie, c'est à cause des tournants. Nous grandissons. L'individu en nous grandit. Et il vieillit. Et il vieillit. Comment vieillit-il ? Vieillit-il comme une personne ou est-ce qu'il vieillit comme le petit-fils du grand-père ? C'est très curieux. En vieillissant, le point de vue individuel et le point de vue personnel se montrent très forts. Et souvent, l'individu reprend une petite vengeance. C'est très curieux, ça. Et si on ne fait pas grande attention, à 60 ans revient le petit-fils de ses grands-pères. Et qu'il y a quelqu'un qui a connu le grand-père, dit « Ah, viens, le grand-père qui revient. » Et le grand-père n'avait pas tellement le souci d'être une personne. Et donc l'individu a repris très fort. Cette lutte entre les deux est très curieuse. C'est un champ de bataille constant. Et la prudence doit être là pour faire que la personne soit toujours victorieuse. Alors, s'il y a une difficulté, si l'individu s'impose très fort, qu'on va trouver le psychologue, ça nous aide à être plus personne. On peut dire aussi que la prudence, c'est la clé de toutes les vertus, pas de la sagesse. Hein. Alors ça, ce serait très intéressant aussi. Il y a la lutte entre la personne et l'individu, il y aurait la lutte entre ces deux sagesses. La prudence est clé, elle noue toutes mes vertus. Toutes mes vertus morales. Mais la prudence est soumise à la sagesse. C'est pas la sagesse qui se soumet à la prudence. C'est la sagesse qui, elle, doit prendre les leviers de commande. Or, très facilement, il faut dire ça, qu'en vieillissant, la prudence l'emporte sur la sagesse. Et c'est peut-être là où on doit être très attentif. Les vertus sont comme le visage de l'âme. Platon montre très fort que les vertus, c'est vrai, façonnent notre corps. Le corps d'un homme vertueux est différent du corps d'un osseur, d'un sportif pur. Et notre corps a été modelé par notre prudence. Et la prudence est modelée par la sagesse. Il faut respecter les étages. La sagesse ne peut pas tout de suite modeler mon corps. Elle le fait par le soin des vertus. Par le soin des vertus, cette pâte humaine, où la matière a une si grande place, cette pâte humaine par les vertus devient humaine. Vous voyez ? Passage de l'atavisme à l'individu, à la personne. C'est bien évident que on retrouve dans notre corps des quantités de points de passage entre l'atavisme et nous. Et donc, la vertu, elle est personnelle, la vertu. Elle n'est pas individuelle. Elle est personnelle. Puisque c'est la raison pratique, le logos pratique, la raison pratique qui vient prendre possession de la concupiscence, de l'irascible, de l'intelligence, de la mémoire. Et là, c'est la marque personnelle de la raison. Et cette marque personnelle de la raison doit être ordonnée à la sagesse. Pour nous, hein, et pour tous les hommes, et pour toutes les femmes. Or, c'est très rare. On se contente, dans l'éducation nationale, de soi-disant la prudence, je n'ai même pas la prudence. L'éducation nationale se fait par les mathématiques. Or, les mathématiques n'engendrent pas la vertu. Donc, on voit très bien où on va. Dans quelques années, ou très rapidement, dans quelques années, il n'y aura plus de vertu. Parce que les mathématiques emportent. Et les mathématiques font de la personne humaine et du corps humain un système mécanique. C'est Descartes qui revient avec toute sa force par les mathématiques. Pour Descartes, les mathématiques sont sagesse. Et actuellement, c'est le grand danger. C'est cette emprise mathématique surtout. Et il faut le voir. Il faut voir que l'emprise mathématique sur le corps est tout à fait différente que l'emprise sur le corps par les vertus, par les vraies vertus, et par la phronesis, la sagesse, par la prudence, je veux dire. La prudence est un métaxu merveilleux entre les vertus de concupiscence, de tempérance, les vertus de force, les vertus de justice. Elle met sa note personnelle à travers tout cela. Et c'est vrai, la tempérance est personnelle par la prudence. Et donc, elle forge le visage humain. Le visage humain est différent de quelqu'un qui vit de la tempérance, qui vit de la force, ou au contraire, se laisse aller complètement à ses passions. Le visage, de plus en plus, quand on se laisse aller à ses passions, devient un visage qui n'est plus humain, qui est celui d'un homme passionné. Et ça se voit, ça se sent, forcément, parce que ça s'incarne. Et il y a un dernier point de vue qui serait bon de souligner. La prudence politique. Vous voyez, un homme d'État, un citoyen qui est un vrai citoyen, l'homme demande de s'achever dans le point de vue de la communauté humaine. On est tous membres de la communauté humaine, d'une communauté humaine. Et c'est là où joue cet aspect de la prudence politique. La prudence politique n'est jamais sagesse, tout court. Elle est sagesse pratique. L'homme politique, s'il est vraiment de prudence politique, il est commandé par le bien commun. Jusqu'où on peut aller. Et ça dépend beaucoup des communautés, ça. Vous voyez, un homme politique, par exemple, qui veut supprimer complètement de son pays la dimension religieuse, puisque nous sommes en face de ce problème-là aujourd'hui, et qui fait que le point de vue religieux n'a rien à voir avec le point de vue politique. Donc, c'est un homme politique qui se coupe complètement de la sagesse et qui veut que l'homme soit mesure de tous les hommes. Or, l'homme mesure de tous les hommes, c'est l'homme politique. Il tombe dans une subjectivité absolue. Et toute la philosophie confirme cette subjectivité. C'est lui qui mesure. Alors il est tyran. Il n'y a pas d'autre solution, ou la sagesse ou la tyrannie, quand il s'agit de la prudence politique. Alors l'avantage de la tyrannie, c'est que ça se voit plus. Et on est quelquefois tyran de son propre corps. Si on supprime la dimension religieuse, on devient très très vite tyran. On l'a vu quand même. On a eu l'expérience de la tyrannie. Et deux exemples très nets. Marxisme et le point de vue d'Hitler, c'est deux tyrannies différentes. Et ces tyrannies existent encore maintenant. C'est que si l'homme politique ne comprend pas qu'il est au service des autres parce qu'il est serviteur de Dieu, si l'homme politique ne voit pas qu'il est serviteur de Dieu, que Dieu n'existe pas, que l'homme seul existe, et que parmi les hommes, il est le premier, il deviendra lui-même mesure des autres. Et c'est ça la tyrannie. Il est lui-même porteur de la finalité de tous. Et il devient, lui, l'exemple, le modèle pour tous. Il ne peut rien y avoir en dehors de lui. Alors, on a des tyrannies diverses, parce que cet homme, ou est un artiste, ou est un homme moral, ça devient... Ce qui est très important à noter, c'est que c'est toujours la tyrannie. Il n'y a que le point de vue d'une prudence vraie impliquant la religion, la vertu de religion qui adore Dieu qui permet à l'homme d'être maître tout en étant serviteur. Je crois que l'homme qui n'adore plus, qui supprime de sa vie l'attitude religieuse complètement, devient nécessairement un tyran. Parce qu'il est le premier. Ayant supprimé Dieu de sa vie, il est le premier. Et alors ça, je crois que c'est très important pour nous de détecter ça tout de suite dans notre réflexion philosophique, de comprendre que la prudence politique, c'est une prudence qui se charge du bien commun de l'ensemble. Et le bien commun de l'ensemble des hommes, c'est de respecter la vraie finalité de l'homme. L'homme politique qui ne respecte pas cette finalité vraie de l'homme s'impose lui comme finalité. Peut-être que dans son intention pas, il peut être un homme altruiste au point de vue social. Il dit qu'il vit pour les autres. Mais comme il ne vit pas pour Dieu, il vit nécessairement pour lui. Sa finalité, c'est lui. Parce que sa finalité ne peut pas être les autres. Il n'y a que Dieu qui me permet de voir le bien des autres. Sans Dieu, le bien des autres est connu par mon bien. Et je fais le bien des autres relatif à moi. Et par là, c'est la tyrannie qui commence. Alors, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de prudence politique au niveau tyrannique. La prudence politique ne peut exister que si on reconnaît l'existence d'un être tout-puissant. C'est, je crois, très important de comprendre cela. Parce que notre rôle, c'est d'éclairer les hommes au point de vue humain. Ça fait partie de notre exigence. Les éclairer au point de vue chrétien, c'est sûr, mais on ne peut être chrétien que si on est un homme. Vrai. Je ne peux pas être chrétien si je ne respecte pas l'homme, puisque Dieu a voulu lui-même respecter l'homme.